Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Et nous y sommes, il est 6h08, c'est RMC. Un grand bonjour, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, très heureux de vous retrouver en ce 5 décembre 2020. C'est parti pour votre week-end des experts. Ils sont là, nos experts. Vous allez pouvoir les retrouver tout au long de ce samedi et de ce dimanche. Demain dimanche, 3 heures d'auto avec Jean-Luc Moreau. Ce sera juste après De quoi je me mail. Tout à l'heure, 9h-10h, Raphaël Grably pour la vie numérique. On essaiera de décrypter la 5G, de comprendre à quoi ça sert la 5G. On recevra le directeur général de Bouygues Télécom qui sera notre invité. Et puis on reviendra aussi sur le Black Friday. Est-ce qu'on fait vraiment de bonnes affaires durant ce Black Friday? Est-ce que les prix barrés sont vraiment des prix barrés? On verra ça entre 9 et 10. 8-9, la forme, la santé avec Christian Ekia. Comment bien se positionner, la posture au travail, surtout au télétravail. Ne pas rester affalé sur le canapé quand on travaille ou quand on fait des réunions Teams. Il nous dira ça tout à l'heure. Et puis, on vous donnera quelques conseils pour renforcer votre système immunitaire contre les infections virales. C'est vrai que c'est l'hiver, c'est vrai qu'il y a le Covid, il y a la grippe aussi qui nous attend au tournant. On verra ça avec Christian tout à l'heure. Christian PC La Maison, 7-8, on évoquera le chauffage au gaz. Quels appareils et systèmes, avantages, inconvénients. Et puis, on parlera aussi du plomb dans la maison. Vous savez qu'il y a encore des maisons qui ont des installations de plomberie en plomb, justement. Elles ont du plomb dans l'aile. Comme dit notre ami Patrick Mulan, qui a toujours le bon mot qu'il faut au bon moment. Eh bien, la maison, ce sera tout à l'heure entre 7 et 8. Et donc, Patrick Mulan, pour débuter, c'est le jardin. Monsieur Miu-Miu, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue dans nos jardins qui commencent à avoir un peu froid.
Ah oui, là, ça
donc, frissonne. Mettez les pyjamas. Ah bah, vous verrez tout à l'heure avec la météo du jardinier, ça va pas s'arranger. Donc, voilà, on commence à être dans une configuration pré-hivernale, on va dire.
Cela dit, écoutez, le calendrier, là, ne nous joue pas des tours. On y est, c'est normal. On a un temps de saison, on est d'accord.
Un petit peu plus frais que d'habitude. Bon, alors, il est vrai qu'il y a 15-20 ans, au début décembre,
oui, il faisait très
déjà
froid,
parfois de la neige, du froid, du gel qui était habituel. Maintenant, quand on a 4-5 degrés, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid ?»
Et oui.
Donc, vous voyez, on a quand même une sorte d'évolution dans le regard par rapport à la météo. Mais là, bon, je dirais que pour le jardin, faites attention quand même. Hein, parce que les températures qui sont annoncées en général par les météorologues sont sous abri.
Oui.
Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on vous dit « mettons 4 au petit matin », dans les zones très dégagées, vous avez de la gelée blanche.
Bien sûr.
Donc attention. Mmh.
On retrouvera la météo du jardinier tout à l'heure. Vous nous donnerez aussi des conseils pour japoniser son jardin tout à l'heure, Patrick.
Oui, parce que, bon, d'abord, on sait que les jardins, les surfaces diminuent et le style japonais est extrêmement bien adapté à des micros, même jardins, des toutes petites surfaces.
C'est vrai qu'au Japon, il n'y a que des petites surfaces.
Bon, j'ai reçu un bouquin qui m'a donné envie de vous parler de ça. Alors, c'est pas que c'est le meilleur livre sur le jardin à la japonaise, parce que c'est très difficile pour des Européens de faire des vrais jardins japonais ou zen, mais ça donne envie.
Voilà. On en parlera tout à l'heure. Et puis, notre conseil de l'expert, dans quelques instants, on évoquera la culture biodynamique.
Alors ça. Non, mais comme vous êtes très nombreux à ces choses-là.
Il faut évoquer tous les sujets.
Voilà.
Puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver Patrick Mulan sur sa chaîne YouTube News Jardin TV avec énormément de vidéos, des conseils, des reportages, etc., des interviews. Si vous êtes un passionné de jardin, allez-y, vous ne le regretterez pas. Je vous en prie, monsieur Miu-Miu. Bon, bah écoutez, 6h12, on y va, on attaque.
Ben oui.
Et on attaque avec Eddy qui nous attend au 32-16.
Oui, bonjour à toute notre équipe, j'espère que tout le monde va bien.
Bah ça va, Eddy, vous?
Eh ben ça va, merci. On commence à penser à Noël.
Pâtissier donc.
Voilà, ça remet un peu de baume au cœur.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Sans mauvais jeu de mots, vous allez bûcher.
Ah oui, là, ça va pas tarder.
Ça va bûcher.
On va pas très bûcher, mais voilà, qu'on va juste bûcher.
Non, là, il faut faire attention, c'est vrai.
Ça commence quand, les bûches de Noël? On les a à partir de quand,
généralement? Là, c'est parti. Là, on a les week-ends, on va commencer les petites bûchettes en portions pour que les gens puissent goûter et faire leur choix d'ici Noël.
C'est comme ça.
Ça marche encore, la bûche, là, Eddy?
Si, si. Et puis, très honnêtement, cette année, c'est la première fois fois qu'on prend des commandes aussitôt. Je pense que les gens ont vraiment hâte d'arriver à Noël.
Oui, ouais, c'est clair. Bah oui.
Bon, histoire de, ouais, de penser à autre chose.
Je crois qu'on a hâte d'être à Noël et on a hâte de terminer cette année tous, en fait. C'est ça. Ça le truc. Donc ça. Si on pouvait accélérer, on accélérerait. Vous êtes à Blanzy, hein, c'est ça, en Saône-et-Loire.
C'est ça, en Saône-et-Loire, oui.
Parfait. Voilà. Bah, en tout cas, merci.
Que se passe-t-il là-bas
de nous écouter. Qu'est-ce qui vous arrive?
Et bah, qu'est-ce qui m'arrive, c'est que bah, avant j'avais un jardin qui me prenait pas mal de temps et je manque un petit peu de temps. Et du coup, j'ai laissé tomber, j'aurai pas le temps de le faire l'année prochaine et en même temps, j'ai des volailles. Et je me posais l'interrogation de planter des céréales, des choses comme ça pour occuper et nourrir mes volailles. Et en même temps, qui pourrait apporter un peu d'amendement, un peu de choses dans mon jardin en attendant que je puisse leur cultiver. Parce que l'idée, c'est de relabourer tous les ans pour enfouir un peu ce que j'aurais planté en céréales. Et je voulais votre avis, savoir si c'était déjà une bonne idée et quel type de céréales planter. Parce que je voulais éventuellement aussi planter des arbres fruitiers, toujours pour mes volailles. Donc des arbres qui produiraient éventuellement un peu plus de fruits, même s'ils sont pas très très bons. Parce que ça serait pas pour consommer, ça serait juste pour mes petites poules.
Alors,
vos petites poules.
C'est plutôt une bonne idée, les céréales, puisque en fait, alors il faut savoir une chose, les poules, c'est omnivore, hein, ça mange tout. Même de la viande, même du poisson, même enfin tout ce que vous voulez. Au niveau du terrain, les céréales doivent être en alternance avec soit des fourragères de la famille des légumineuses, comme le pois fourragé, comme le sainfoin, comme le trèfle blanc, etc. Pourquoi ? Parce que les légumineuses, elles, ont la particularité de fixer sur leurs racines l'azote atmosphérique grâce à des bactéries, et lorsque l'on cultive ces plantes et qu'on les enfouit, c'est ce qu'on appelle les engrais verts, eh bien, on apporte vraiment une amélioration physique par la matière organique, mais aussi chimique par l'azote qui a été fixé par les plantes. Donc, on fait vraiment une fertilisation naturelle extrêmement intéressante. De l'autre côté, au niveau des arbres, c'est pas extrêmement compatible avec la culture des céréales, dans la mesure où on cultive, quand on cultive le blé, l'avoine, l'orge, c'est au soleil. Il faut, pour que ça pousse bien et que ça mature, il faut pas avoir trop d'ombre. Même si aujourd'hui, il y a des nouvelles. Il y a des techniques qui se développent, qu'on appelle l'agroforesterie, qui méritent quand même d'être un tout petit peu extrapolé ou amélioré, parce qu'en fait, en partant du principe que sous un couvert forestier et avec plusieurs strates de végétation, on peut obtenir un ensemble de production, c'est pas complètement idiot, sauf que, encore une fois, il y a plein de plantes, et la plupart d'ailleurs de celles qu'on consomme ne poussent pas vraiment bien à l'ombre. Donc ça, il faut aussi se méfier de ce genre de théories qui sont bonnes sur le papier et qui, dans la pratique, sont un peu plus compliquées. Alors, au niveau de ce que les poules pourraient aimer, il faut les pois fourragés, le soja, le tournesol, même le colza, ça apporte des protéines à travers les grains. Bon, au niveau de la céréale, le blé, le maïs, l'avoine, c'est ce que l'on fait le plus souvent. On évite l'orge parce que vous savez, l'orge est barbu et les barbes peuvent piquer les pattes des poules ou même n'est pas tout à fait conseillé. Après, au niveau, si vous voulez faire des légumes, et ça c'est pas une mauvaise idée, c'est pour améliorer une terre que l'on cultive pas, c'est de faire des pommes de terre. La pomme de terre est une culture nettoyante, que l'on appelle, parce que lorsque vous avez les pommes de terre qui occupent le terrain, généralement, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes qui se développent. Donc ça, c'est une bonne chose. La productivité est bonne. Les pommes de terre, qu'elles soient crues ou cuites, ça fait son ordinaire pour la poule.
Et bien sûr.
Alors, ce qu'on évite, quand elles sont crues, j'ai dit une bêtise, faut les cuire. Ouais. Non, parce que d'une manière générale, la pomme de terre crue, elle est relativement toxique, surtout si elle est un peu verte. Bon, vous évitez, pour les poules, vous évitez tout ce qui est aliacé, c'est-à-dire les oignons, les poireaux, par exemple, ça aime pas trop, et puis ça peut vraiment leur faire un désordre au niveau intestinal. Le céleri non plus n'est pas très très conseillé, de même que les choux. Bon, après, le reste, ça va très très bien pour les poules. Vous savez, on les nourrit souvent avec simplement les reliefs de nos repas.
Bien sûr.
Voilà. Alors, au niveau des fruits, Au niveau des fruits, vous pourriez imaginer des fruits un peu sauvages, comme la prunelle, comme même la mélanchier, par exemple. Alors, je sais pas si on dit toujours un mélanquier ou un mélanchier, c'est comme on veut. Bon, c'est un arbre qui est assez joli, qui fait des belles fleurs blanches au printemps, qui fait des petits fruits qui sont comestibles. Vous pouvez mettre des sorbiers, par exemple, aussi. Tout ça, donc, a un côté un peu plus naturel que des pommes ou des poires qui nécessitent des traitements parce que c'est souvent malade.
Voilà, Mehdi.
Ok.
Bon, ben, vous avez de quoi faire là.
Hein. De quoi s'occuper quand même. Ouais, c'est bien, merci.
On vous laisse retourner au fourneau.
C'est ça. On va livrer le pain là, tout chaud et on
parfait.
Va
fourneau. Et ben, très bien. Merci Eddy, et bonne
bien,
journée.
Bon
et merci, de,
bientôt,
merci d'être avec nous. Il est 6h18 sur RMC. Il est temps de retrouver maintenant eh bien, le conseil de l'expert.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC, l'astuce jardin de Miu Miu.
Lune montante, biorythme harmonisé,
des pouvoirs cosmiques phénoménaux.
J'attends ton conseil.
Et on va parler donc de culture biodynamique.
Oui.
Et vous vous posez cette question, est-ce que c'est bien sérieux tout ça, Patrick?
Bah, alors, bon, j'ai reçu, comme chaque année, le livre qui s'appelle « Les calendriers des semis biodynamiques ». Là, c'est pour 2021. C'est publié par le mouvement de l'agriculture biodynamique. C'est une usine
à
gaz,
ce truc. On n'est jamais mieux
servi. Quand vous regardez les calendriers et tout ça, par rapport même à... aux livres qui sortent souvent aussi sur le jardinage avec la lune. Franchement, il faut, je vais dire de façon triviale, il faut se le farcir. Et c'est quand même légèrement léger.
Légèrement léger. Bon,
mais
alors,
oui, parce que, en fait, déjà, il y a un truc qui m'a énormément choqué en commençant la lecture de ce truc-là. C'est que, on vous parle des types de fructification. Alors que vous récoltiez une fleur comme un artichaut ou un chou-fleur, une feuille comme un épinard ou une laitue, une racine comme un radis ou un navet, on vous parle de fructification. Botaniquement, ça n'a strictement aucun sens.
Oui, d'accord. Ouais.
Donc déjà, on tente de vous dire qu'on vous fait de la science et on part sur des trucs qui sont
idiots. En écrivant des trucs, des erreurs. Voilà. Ouais. Patrick, commençons peut-être par le commencement. Comment est né ce concept de l'agriculture biodynamique?
Alors, c'est né en 1924 avec un monsieur qui s'appelait Rudolf Steiner, qui d'ailleurs est décédé l'année suivante. C'était un occultiste, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui faisait il faisait tourner les tables, il faisait des choses comme ça. Et donc, il a créé... c'est plutôt une philosophie au départ, parce que il parlait d'agriculture biologique et dynamique. Donc, au départ, l'idée, c'était de respecter la nature. Il faut bien le dire quand même que la biodynamie, au départ, c'est bien quand même.
Oui, ça part
l'idée, elle est bonne.
Ça part d'une bonne idée.
Mais très très vite, ça part dans des trucs ahurissants, parce qu'il faut savoir que Steiner avait créé ce qu'il a appelé une science, mais qui en réalité est un courant de pensée un peu spirituel, qu'il avait appelé l'anthroposophie. Alors déjà, si vous savez ce que c'est, ou si vous avez entendu parler, il faut déjà le faire. Et donc, c'était soi-disant de décrire avec une rigueur scientifique des phénomènes spirituels. Ça aussi, je peux vous dire, essayez. Hein. Bon, même si vous êtes très très doué en philosophie, faut quand même le faire. Bon, donc en fait, c'était un mouvement plus ou moins ésotérique et qui mettait ce qu'il appelait la science de l'esprit en avant, avec un côté très immatériel et en disant que l'humain, alors ça aussi, ça c'est toujours le truc, on met l'humain sur un piédestal en disant que nos connaissances sont illimité et que l'on peut vraiment tout savoir jusqu'à l'infini. Donc en fait, c'était, et ça reste toujours, quelque chose d'un peu complexe. Et en France, à partir de 1958, on a eu un développement de cette biodynamie avec le mouvement, enfin d'abord par l'association de culture biodynamique et le mouvement de culture biodynamique en 75 avec ce fameux calendrier dont je vous parlais tout à l'heure.
Mais alors, Patrick, qu'est-ce qui rapproche cette anthroposophie des techniques de culture?
Écoutez, c'est parce que, en réalité, vous avez un dogme de respect de la nature, mais sans aucun mode de rationnel. On ne vous dit pas du tout comment vous comporter, on vous dit qu'il faut y croire. Alors moi, je veux bien croire à tout ce qu'on veut, mais pour croire, il faut quand même convaincre. Or, c'est pas extrêmement convaincant, hormis le fait que l'on vous dit utiliser uniquement des intrants naturels, ne retournez pas inutilement le sol, utilisez du compost. Donc tout ça, aujourd'hui, tout le monde sait le faire, le fait même. La permaculture, qui est très à la mode aujourd'hui, a développé tout cela. Mais vous avez ce qui me gêne le plus, qu'on ajoute là-dedans en biodynamie, c'est l'influence, alors je dirais bien supposée en l'écrivant en gros, des rythmes lunaires et même planétaires sur le comportement végétal.
Ah oui.
Et donc là, on commence à rentrer...
dans un truc...
Surtout que... on parle de constellation zodiacale, donc ça commence à ressembler à un horoscope, le truc. Parce que quand on s'intéresse un peu à l'univers, quand on s'intéresse un petit peu à, je veux dire, c'était ce mouvement extraordinaire des planètes, des constellations, etc., le zodiac a rien à voir là-dedans. Mmh. Le zodiac, ça a été inventé par l'humain il y a très très longtemps parce que on reconnaissait des formes dans la disposition des étoiles dans le ciel. Mais aujourd'hui, quand vous vous intéressez vraiment, je veux dire, à tout ça, c'est tellement plus complexe, tellement plus passionnant que ces histoires un petit peu légères.
Patrick, est-ce qu'il faut tout jeter dans la biodynamie ou est-ce qu'il y a quand même des choses valables ?
Mais non, je vous dis, il faut pas jeter le fait que en un, lorsqu'on est jardinier, on respecte la nature. Alors, dans la biodynamie, on va même plus loin puisqu'on va jusqu'à respecter les cycles naturels. Et ça, c'est bien. Mais en même temps, quand on est jardinier, qu'est-ce qu'on aime faire ? On aime cultiver par exemple des plantes sous abri pour obtenir des récoltes un peu plus précoces. On aime introduire des végétaux qui viennent d'autres régions ou même d'autres pays lointains pour pouvoir les acclimater. On aime se créer un univers à soi. Donc la biodynamie, oui au départ, et après tous les détails que l'on a autour de ça, et notamment quand on vous dit que vous avez une influence direct des végétaux en fonction de la position de certaines constellations planétaires par rapport à la Lune notamment.
Oui, ça commence.
Mais honnêtement, c'est n'importe quoi. Il faut quand même être sérieux à un moment donné. Donc, moi, je vous dis...
Pour conclure,
faites plutôt de la culture biologique. Ça sera plus raisonnable, c'est-à-dire respecter la nature... améliorer votre sol, faites en sorte d'avoir des végétaux qui attirent les oiseaux et les insectes valables. Faites-vous, et surtout, faites-vous plaisir au jardin, parce que, en plus, dans la biodynamie, on vous raconte de fabriquer des préparations un peu bizarres. Moi, j'ai vu, par exemple, on vous dit d'utiliser du purin de limaces et d'escargots. On vous fait faire aussi...
des recettes de sorcières un peu.
La préparation 500 à base de bouse de vache qui permettrait de faire des choses miraculeuses. Donc tout ça, n'y croyez pas. Soyez raisonnables, regardez la nature et vous allez voir, le jardin ira très très bien.
Allez, on referme la parenthèse sur tout cela et on revient dans un instant pour évoquer quelque chose de beaucoup plus concret. Ce sont les jardins japonais. Comment japoniser son jardin? Là, il n'y a pas d'ésotérisme, vous allez voir, c'est du concret. Et vos questions, bien sûr. Ah oui, un peu quand même. Vos questions au jardin, au 32-16, Amina vous attend au standard, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, avec votre smartphone, vous pouvez nous laisser votre message et votre numéro de téléphone.
RMC, 6h-7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Ah, on décène ce matin. Petit bambou, Patrick Mulan, vous allez bien ?
Mais très bien.
Alors attention, Patrick, on va évoquer ce matin les jardins japonais. Et surtout, vous allez nous donner des conseils pour japoniser son jardin.
Oui, alors je pense qu'il faut mieux dire cela comme cela que se dire on va créer un jardin japonais. D'ailleurs, ce sujet m'a été inspiré par le livre qui s'appelle L'art paysager zen de Marie-France Ménil aux éditions La Légia, et qui est sous-titré L'alchimie du minéral et la puissance du végétal. Ça, en un mot, cette phrase est assez significative de ce que doit être l'idée d'un jardin japonais. Je dirais que dans ce livre, il y a des choses qui sont jolies, mais on peut pas dire que c'est vraiment un jardin japonais. Et pour voir un jardin japonais, il faut aller au Japon, mmh. où la création des jardins, c'est un art. Et quand on parlait d'ésotérisme tout à l'heure, il y a ça, mais avec de l'authenticité, c'est-à-dire que la philosophie zen ou taoïste ou bouddhiste est projetée à travers la réalisation du jardin qui doit en fait entraîner le spectateur vers à la fois la contemplation, la méditation et, on va dire de façon optimale, à la compréhension du monde. Donc vous voyez, ça va très très loin. Et ce qui est quand même magnifique, moderne, parce qu'il faut savoir quand même que les premiers jardins japonais datent d'il y a plus de 500 ans. Ils avaient déjà le meilleur concept du modernisme d'aujourd'hui, à savoir quoi ? Idéaliser la nature en limitant les artifices et en créant un côté minimaliste et symbolique. C'est-à-dire que tout élément évoque quelque chose. Par exemple, une pierre, c'est une montagne, une étendue de sable, c'est la mer, etc. Mais tout ça, c'est fait pour obtenir un dépouillement maximal qu'on retrouve, par exemple, dans l'art contemporain, où on a éliminé tout le superflu pour ne garder que l'essentiel. Et dans un jardin japonais, il doit y avoir ça.
D'accord.
Donc, tout ce que vous mettez dans le jardin japonais ou à la japonaise doit avoir une réalité, doit pouvoir être expliqué. Et si jamais il n'est pas exactement là où il devrait être, on l'élimine tout simplement.
C'est dingue. Alors les pierres sont omniprésentes dans les jardins japonais, Patrick, pourquoi ?
Oui, parce que je vous disais, donc, on met souvent un gros rocher en isolé.
Ça, c'est la montagne.
Ça, c'est la montagne. Parce qu'on crée un paysage.
Mais oui, oui, oui.
Hein, le but du jardin japonais, c'est reproduire une nature en miniature, capturer un paysage qui s'inscrit dans la limite du jardin, mais qui n'est pas justement... Alors ça, c'est l'énorme côté subtil, mais difficile à obtenir. Ce paysage s'inscrit dans les limites du jardin, mais ne s'arrête pas à ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, votre jardin doit pouvoir se prolonger par une sorte de, on va dire, perspective que vous laissez deviner pour que l'alentour, que ce soit la campagne ou la ville, puisse avoir un rôle également. Ce qui fait que lorsque vous êtes dans un tout petit espace avec un jardin japonais, vous ne vous sentez pas confiné parce que, on va dire qu'il, par sa simple présence, il agrandit cet espace. Et donc, les pierres, pour en revenir aux pierres, elles ont toujours cette symbolique, on a dit la montagne, mais quand vous mettez deux pierres côte à côte, en général une plutôt plate et une dressée, eh bien, ça représente deux éléments majeurs du jardin japonais, mais qui sont des éléments symboliques, la tortue et la grue, qui apporte la longévité et le bonheur. Parce que c'est pareil, le jardin, c'est un lieu de délice, c'est
avec
un lieu
symboles.
De félicité dans lequel vous devez vous sentir bien. Mais regardez comme c'est moderne. On a ça aujourd'hui. Nos jardins, c'est des endroits où l'on doit se sentir bien.
Quelles sont les techniques qui caractérisent le jardin japonais, Patrick ?
Alors, déjà, et c'est pour ça que c'est intéressant de nos jours, les jardins japonais sont toujours clos. Vous n'avez pas de jardin japonais à la mode Versailles. Qui
On rentre et on sort du jardin facilement, en fait.
Ah, pas forcément facilement. Justement, il faut que vous gagniez, faut que vous alliez comme au paradis. C'est-à-dire que globalement, vous savez, l'idée du pas japonais, c'est-à-dire ces dalles qui sont espacées à la longueur d'un pas. Nous, généralement, en Europe, on fait des pas japonais avec des dalles bien lisses, etc., bien droites. Non, au Japon, c'est des bouts de pierre où vous devez avoir des difficultés pour pénétrer parce que arriver au jardin, eh bien, il faut y avoir été à la fois invité et en même temps avoir quelques difficultés. Alors, l'idée aussi formidable du jardin japonais, c'est associer, cacher et révéler. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous progressez à l'intérieur du jardin, vous découvrez de nouveaux paysages qui précédemment vous étaient dissimulés au regard. Et selon l'angle ou le lieu, parce que dans un jardin japonais, hormis les très très grands, on ne rentre pas. Ce sont des jardins contemplatifs. Mmh. Donc vous avez des lieux, des zones d'où vous observez le jardin. Et en fonction de l'endroit où vous vous situez, vous ne voyez pas le même jardin.
C'est ça.
Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, ça montre le concept global qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne met pas les choses n'importe où et que, en fonction du point de vue, eh bien, vous devez toujours avoir des zones d'intérêt et avec cette idée, surtout quand il est petit, de le faire paraître plus grand.
Alors, quels sont les éléments indispensables si on a envie de se créer un jardin japonais ?
Alors, on a déjà vu les rochers. Vous avez l'eau. Alors ça, l'eau, c'est plutôt quand vous avez quand même un grand espace. Parce que la pièce d'eau est très importante. Et dans une pièce d'eau de jardin japonais, il y a toujours une île. Il y a toujours une île qui est en général l'île de la tortue, l'île où il y a cette, comment on va dire, immortalité, qui est reliée par un pont, le fameux pont un petit peu en demi-cercle typique du jardin japonais, ou alors par des pierres de guet qui vous permettent de marcher sur l'eau et de façon parfois un peu difficile. On met des carpes koi dans le bassin, il y a une grande symbolique sur les carpes koi, il y a même des collectionneurs de carpes koi qui peuvent atteindre des prix phénoménaux. Le sable, les graviers, donc les zones plates, non plantées, dans lesquelles on va tracer des motifs avec des râteaux spéciaux, eh bien ça va représenter les étendues d'eau, surtout quand vous êtes dans un petit jardin. Vous avez le fameux pas japonais dont j'ai déjà parlé, et puis vous avez les éléments décoratifs, les lanternes de pierre, voire, bon, si c'est assez grand, vous pouvez être une petite pagode. Vous avez aussi deux choses importantes. Le shishi odoshi, qui est donc cette espèce de fontaine en bambou qui se remplit et qui lorsqu'elle est pleine, tomber et taper sur une pierre. Eh bien, ce bruit, il était à l'origine destiné à écarter les grands animaux, les sangliers, les chevreuils qui pouvaient venir abîmer le jardin. Et puis, vous avez la fameuse fontaine d'ablution, le tsukubai, qui, pour les Japonais, est indispensable parce que toute personne qui rentre dans votre jardin doit se purifier avant de le visiter.
C'est passionnant tout ça. Maintenant qu'on a aménagé notre jardin, qu'est-ce qu'il faut mettre comme plante pour un jardin japonais ?
Il faut savoir une chose, c'est que le jardin japonais n'est pas un jardin énormément planté. Et c'est pas non plus un jardin énormément fleuri. Alors, on a surtout des bambous, les bambous qui, eux, servent souvent d'arrière-plan. Dans les arbres, on va mettre essentiellement le pin à 5 feuilles. Parce qu'il représente la longévité. On peut avoir, si le jardin est grand, un cerisier à fleurs. On connaît évidemment tous ces cerisiers japonais extraordinaires. Après, bien entendu, il y a les érables du Japon. On ne peut pas avoir un jardin japonais sans avoir au moins un érable du Japon. Et oui. Si le jardin est très très grand, vous pouvez mettre ginkgo, cryptomeria, le faux cyprès, le Camassiparis obtusa, qu'on appelle là-bas le inoki. Et puis au niveau des fleurs, on aura quoi ? En bordure du bassin, on aura des iris. On aura évidemment des azalées qui généralement sont groupées dans un massif sur un coin. En bordure de chemin, on peut mettre des pivoines. Et puis aussi, si le jardin est assez grand, et plutôt avec les azalées, on peut mettre aussi un camélia. Bon. Il y a le nandina qu'on appelle le bambou sacré, qui n'a rien à voir avec un bambou. Voilà, ça vous fait un ensemble de plantes, mais surtout pas de rosiers, pas de glycines, même s'il y a des glycines du Japon, mais non, moins de fleurs, de la structure et des plantes qui ensuite vont être taillées, parce qu'il faut les harmoniser les unes avec les autres.
Patrick, pour terminer, j'imagine que je ne suis pas obligé d'aller au Japon pour voir de beaux jardins japonais, on en a en France ?
Oui, je vais vous en citer 5 parce qu'il y a vraiment de très très belles réalisations. Moi, mon préféré, c'est le parc oriental de Molévrier. Molévrier, c'est dans le Maine-et-Loire, à la frontière de la Vendée, si je puis dire. C'est vraiment un endroit, ça vous prend aux tripes. C'est un jardin de style Edo qui a été réalisé vraiment de main de maître. Et vous pouvez le visiter à toute saison. Mais au printemps prochain, n'hésitez pas, il y a des belles azalées. J'ai adoré le parc botanique de Bretagne où il y a un jardin japonais qui a été créé par Monsieur Juno avec un talent extraordinaire parce que là, vous êtes imprégné du style japonais alors qu'on est vraiment en France. Remarquable aussi le jardin à Berkane qui est à Boulogne-Billancourt. C'est un jardin qui a été réhabilité par le département il n'y a pas si longtemps et qui a été créé par un Japonais. Un privé, le seul peut-être privé vraiment magnifique, le jardin zen d'Éric Borja. On est dans la Brôme. Et puis, à Bombouzeray des Cévennes, à Anduze, il y a la Grande Vallée du Dragon, d'ailleurs, qui a été créée par Éric Borja aussi, qui est un grand, grand spécialiste des jardins japonais et qui vaut aussi le coup d'œil. Après, il y a des trucs qui sont moyens.
D'accord. Mais bon, déjà, ça nous laisse cinq.
Ah oui.
Cinq adresses sympathiques.
Il faut les voir. Faut les voir. Mais vous les verrez d'ailleurs, pas tous, mais presque tous sur News Journal TV.
6h42 sur RMC. On revient dans un instant. La suite de ce rendez-vous jardin. Jean-Claude sera là. Il aimerait savoir à quelle cadence il doit arroser ses plantes. Alors, on va rentrer dans le détail, et surtout en hiver.
Quand elles en ont besoin, c'est la bonne réponse.
C'est la bonne réponse. Ouais, mais est-ce qu'on peut détecter le fait qu'elles en aient besoin? La météo du jardinier, et puis les coups de cœur de Patrick. Voilà ce qui vous attend. C'est votre jardin, c'est le week-end des experts. 32-16, hein, bien sûr, pour vos questions. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC,
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, 7h moins le quart, le retour de votre week-end des experts, c'est le jardin. La météo du jardinier dans un instant, mais auparavant, c'est Jean-Claude que l'on accueille au 32-16. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour messieurs.
Bonjour
merci
Jean-Claude.
Merci de prendre mon appel. Je voudrais simplement poser, si c'est possible, deux questions. En un mois, pour des plantes vertes en hiver, combien de fois faut-il les arroser?
Oui.
D'une part, et d'autre part, suivant la formule NPK, quel est le meilleur engrais liquide plante verte? Merci de me répondre.
Alors, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce qu'on pose pas la question comme ça. Parce que moi, ma réponse, ça serait extrêmement simple. Combien de fois faut-il arroser les plantes? On sait pas, c'est quand elles en ont besoin. Tout dépend de quoi? Tout dépend de la température, tout dépend de la plante, tout dépend du substrat. Donc, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que en période hivernale, on arrose moins parce que les plantes sont en repos. La durée du jour est beaucoup moindre, donc la plante est moins active. Bon, l'idée, c'est déjà, au départ, dans la maison, que la température ne dépasse jamais les 20 degrés, parce que plus vous montez en température, et plus les plantes ont du mal à bien, on va dire, survivre, parce que la montée de température dans la maison fait baisser l'hygrométrie. Or, c'est l'inverse que la plante a besoin. Plus il fait chaud, plus ça doit être humide. Quand je parle d'hygrométrie, c'est l'air. Bon. Au niveau du sol, allez, je vais vous donner une recette plus ou moins, mais franchement, j'aime pas beaucoup faire ça parce que c'est pas des mathématiques appliquées, la culture. On va dire que sur des plantes style philodendron, chefflera, ficus, etc. Donc des plantes qui sont un peu arborescentes, qui ont des feuilles assez épaisses, on va arroser une fois tous les 8-10 jours avec la température dont je viens de vous parler. Sur des plantes qui sont en végétation, comme les orchidées qui sont en fleurs, comme par exemple des violettes du Cap qui seraient en fleurs, etc. Là, vous pouvez arroser une fois par semaine sur les orchidées, et jusqu'à deux fois par semaine, par exemple, sur aussi les cyclamens, les azalées, etc. Bon, l'idéal, c'est quoi? C'est normalement d'essayer de voir si la plante manque d'eau. Elle manque d'eau lorsque les feuilles commencent à se rider un petit peu, ou baisser un peu du nez, ou lorsque, quand vous touchez la terre, eh bien, c'est sec. Voilà. Donc ça, c'est la réponse. Après, sur la deuxième question...
Oui, c'était qui était les engrais liquides.
Écoutez, c'est pas comme ça non plus que ça se calcule, puisque vous avez qu'à regarder dans le commerce, tous les engrais pour la même destination, mettons plante verte, ont une composition différente. L'important, c'est qu'il y ait un certain équilibre.
Et on peut pas en trouver un, on va dire, universel qui
s'adapte. Il y a des engrais dits universels. Non. En ce moment, de toute façon, on ne fertilise pas les plantes de la maison. Après, au printemps, on met plutôt un engrais un peu riche en azote, hein, le N, pour que on favorise la croissance. Et ensuite, pendant la période de végétation, on va mettre un engrais qui est plus riche en potasse et en phosphore, qui eux favorise la floraison et la fructification.
Merci Jean-Claude pour votre appel. Et on enchaîne avec la météo du jardinier, Patrick. Alors, vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France. L'hiver s'installe?
Ah oui, on va dire. On va avoir des températures négatives dans certaines régions pratiquement pendant toute la semaine. On a vraiment une vague hivernale qui arrive avec demain, ça va pas être vraiment génial. Il y aura vraiment un peu de pluie partout dans le cours de la journée. On a des maximales faibles de 3 à 12 degrés maximales. Donc, on n'est pas vraiment dans des conditions géniales pour le jardinage. Mais bon, comme il gèle pas trop fort, vous pouvez quand même tailler. En ce moment, on commence à tailler un fruitier. On taille aussi toutes les plantes d'ornement pour les rééquilibrer. La température va baisser petit à petit. Hein. Donc, un peu plus frais encore lundi, avec quelques brouillards, des plis plutôt ponctuels, surtout dans la moitié sud, mais des températures qui restent basses dans la journée. Donc c'est plutôt le moment de travailler à la maison, de vaporiser les plantes quand justement on chauffe un peu trop la maison, que l'humidité baisse. Et puis de faire attention, si vous utilisez des bacs à réserve d'eau, de bien vider la réserve avant de rapporter de l'eau. On ne voit pas toujours le fait que ces plantes, elles ont tendance à tremper tout le temps. Et ça, c'est le meilleur façon, voilà, pour les tuer. Mardi, vous vous rendez compte, on aura des fortes gelées jusqu'à moins 5 à Bourg-Saint-Maurice. On aura 0 à Lyon. Tout ça, c'est sous abri, hein, avec donc des pluies plutôt sur les Pyrénées et la Méditerranée. Donc là, si vous passez entre les gouttes, bon, vous pouvez avoir une petite laine et puis vous mettre surtout à préparer Noël. Hein, pourquoi pas décorer donc à l'extérieur un conifère, c'est avec des guirlandes lumineuses d'extérieur. C'est vraiment quand même génial. On a besoin de donner un côté festif. Essayez de faire venir la fête à l'extérieur. On a été tellement confinés que ça va faire du bien de s'éclater un peu dehors. Si vous avez l'occasion, faites-le vraiment. Et puis mercredi, jeudi, on est toujours vraiment la même froideur. Je dirais moins 7 à Gap annoncé jeudi. 4 degrés à Marseille au petit matin, mon cher François.
Mais c'est pas beaucoup.
On va être vraiment en froid. Donc, vous pouvez vous activer au jardin pour vous réchauffer, labourer, faire des gros trous, planter, mettre des dallages, des choses comme ça. Tamiser votre compost, vous voyez, par exemple. Et puis, ça descend encore, puisque vendredi, on annonce moins 8 à Gap, 0 à Lyon, Belfort et Reims, des pluies un peu intermittentes. Donc, vraiment, vraiment pas une grande semaine pour le jardinage, malheureusement.
Voilà, on rapproche les plantes fragile hein, de la maison, hein. Ça, c'est
alors,
important.
Là, on met même pour la
oui,
nuit
le petit pyjama.
Ah,
on est d'accord.
Oui, ça, on y va.
Patrick, pour terminer, vos coups de cœur de cette semaine.
Voilà, deux livres, un qui servira vraiment de cadeau, un autre pour vraiment se faire plaisir et comprendre tout, dans Le secret des abeilles de Silas Saint-Pierre chez Ozoni. C'est un livre qui est présenté comme un roman, il y a 400 pages, qui rassemble vraiment tous les savoirs qu'on peut avoir sur les abeilles. C'est extrêmement bien écrit, c'est costaud, mais il y a toutes les étapes de la vie de l'abeille. C'est vraiment... En plus, un livre qui, pour une fois, n'est pas une sorte de plaidoyer écologique sur les pauvres abeilles qui disparaissent. Non, on vous apprend tout ce qui est l'abeille, sa société, la façon dont elle vit, avec plein plein d'anecdotes. C'est vraiment très 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 bien. Donc, dans Le secret des abeilles, chez Ozone. Et puis, alors, un livre qui n'est pas jardin, mais qui est utile pour les jardiniers, qui est Le Monde en 300 cartes, images, satellites et infographies. C'est un collectif de chez Glénat et Géo. Très beau livre, très grand truc. Alors vraiment, les meilleurs spécialistes mondiaux vous ont fait les cartes qu'il faut pour comprendre le monde. Et pourquoi je dis c'est important pour les jardiniers? Parce que nous avons besoin en permanence de savoir d'où viennent les plantes pour pouvoir les adapter correctement. Et quand on vous dit par exemple qu'elles viennent du Turkistan, bah vous savez pas forcément où c'est. Donc avoir un bel atlas, c'est vraiment très très bien. Et ça fait un vrai vrai beau livre cadeau. Ça vaut 39,95. J'ai vraiment vraiment aimé ce livre. Voilà, ça fait plaisir de regarder les cartes. Et puis là, en plus, vous avez des infographies qui vous montrent un petit peu le monde aujourd'hui et des images satellites. Et ça, c'est aussi assez étonnant.
Patrick, c'est sur ces coups de cœur qu'on se dit au revoir. On sera là la semaine prochaine.
Voilà, j'embrasse les jardinières et puis ma petite jardinière tout particulièrement parce que demain, c'est son anniversaire.
Oh, on fait un gros bisou à Nicole alors. Voilà.
Et puis la petite Perle et puis toutes les jardinières comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et salut monsieur Christian Pesquet.
Salut monsieur Mulan, comment allez-vous?
Oui, ça va. Vivant.
Oui, c'est déjà bien. C'est la première des choses.
On va parler de chauffage gaz tout
à
l'heure.
Oui, on a parlé
Christian.
D'électricité il y a 15 jours. Bah, on va passer maintenant au gaz et effectivement.
On
va
mais on n'a plus le droit.
Si, on a. Justement, on va
on
voir.
On n'a plus le droit.
Si, on va voir que justement, on a tout à fait encore le droit. D'abord, ça n'est pas pour tout de suite. Et puis, ça concerne le neuf. On va pouvoir développer ça avec Emmanuel Bavou, qui est la direction du développement de GRDF. Et donc, on aura là un spécialiste.
Voilà, donc le chauffage gaz, on parlera aussi du plomb dans la maison. Hein.
Oui.
Et puis, toutes vos questions, bricolage, maison, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, Météo Info, et on est de retour, à tout de suite.